Alors, j'imagine évidemment qu'il va y avoir un certain nombre de réactions dans la salle. Je rappelle à la salle quand même que Mme Mazan vous a posé deux questions, enfin au moins deux. La première, peut-être que vous avez l'explication du pourquoi l'augmentation des pratiques de contention. Et puis la deuxième, quel intérêt thérapeutique, elle n'a pas trouvé encore la réponse. Voilà, alors si vous avez la réponse aujourd'hui, on va commencer ici par Gilles Moulec.
Oui, Gilles Moulec, ADESME. Bon, je ne vais pas me positionner sur les deux questions que vous évoquez. Je pense que c'est plus aux médecins et aux soignants de répondre. Je voudrais me positionner un peu sur autre chose. Madame, vous avez indiqué que jusqu'à tout récemment, la pratique de l'isolement de la contention n'était pas encadrée par le droit, mais en fait, s'avérait régulée à travers la référence à un certain nombre de bonnes pratiques. Alors, ça n'est pas sans rappeler ce qui est constaté aujourd'hui dans le secteur des personnes âgées, auquel a fait allusion tout à l'heure notre collègue Vincent Thomas, puisque aujourd'hui, on constate que dans le domaine des personnes âgées, on n'a effectivement pas de régulation par le droit, mais concernant certaines pratiques de limitation de la liberté de circulation, là aussi, une régulation par les bonnes pratiques de bientraitance. Est-ce que ça n'induit pas la nécessité d'avoir un dispositif législatif plus englobant qui concernerait l'ensemble des personnes hors d'état d'exprimer un consentement, qu'elles soient en psychiatrie ou en dehors du champ de la psychiatrie, notamment chez les personnes âgées, voire pourquoi pas à l'hôpital général dans les disciplines somatiques? Ce qui peut poser aussi en connexité la question de l'élargissement de votre propre domaine d'intervention, question qui avait été soulevée du temps de votre prédécesseur et laissée de côté, mais qui peut laisser quand même un certain sentiment d'insatisfaction compte tenu de la similitude quand même de certaines problématiques.
Alors, vous avez raison, il y a une similitude dans les pratiques, et il y a même, on le sait, dans les EHPAD, des procédures de contention souvent utilisées. Mon prédécesseur avait lancé le débat qui n'avait pas abouti parce que je crois que le ministère de l'époque n'était pas favorable. Moi, j'ai étudié la question. Actuellement, donc, nous ne sommes pas compétents pour une raison précise prévue par la loi, c'est que nous sommes compétents pour les personnes privées de liberté du fait d'une décision d'une autorité publique, ce qui n'est pas le cas des personnes qui sont dans les EHPAD, qui sont souvent pas forcément rentrées avec un consentement ni total ni parfois éclairé, mais qui ne sont pas rentrées par une décision d'une autorité publique. Donc actuellement, la loi ne nous le permet pas. Moi, ma position actuelle, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut qu'il y ait un contrôle, car actuellement, le contrôle par les conseils généraux, le contrôle par les ARS ne suffisent pas. Est-ce que c'est au contrôle général des lieux de privation de liberté ou pas de le faire? Je n'en suis pas convaincue, parce que ça serait quand même un changement, là aussi, de paradigme, dans la mesure où nous, c'est vraiment les personnes privées de liberté par une autorité administrative. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une autorité indépendante qui engage ce contrôle. Ça peut être le défenseur des droits. Pardon, ça doit passer par une loi, absolument. En tout cas, nous ne pouvons pas élargir notre compétence dans les termes actuels de la loi.
Merci. Donc, d'autres questions, remarques, réactions également aux propos de Mme Mazan, je ne sais pas, sur les détenus hospitalisés.
Oui.
Oui, pardon, je n'avais pas vu.
Philippe Guinard de l'ARS Île-de-France. Sur la question de l'évolution, de la mesure de la traçabilité, j'étais au forum Espace éthique où vous participiez l'autre fois à Paris. On entend beaucoup de ressentis, de perceptions. Et vous posez la question de l'observatoire de la mesure. Donc, moi, sur la question de la tendance de l'évolution, je reste interrogatif. Je suis un peu obsessionnel du chiffre. Je suis allé voir le RIMP de la région, qui n'est pas parfait. Dans le RIMP aujourd'hui, on doit tracer l'isolement. Hein. À partir du moment où il dépasse un événement ponctuel, on doit coder une journée d'isolement. Sur l'Île-de-France, je n'ai regardé que les établissements autorisés aux soins sans consentement. Sur l'Île-de-France, 25% des établissements autorisés aux soins sans consentement codent zéro journée d'isolement, dont des établissements éminents de grande taille. Je veux dire, il va falloir commencer par là. et ne, surtout ne pas travailler sur ces questions de registre, etc. Enfin, dans des établissements qui m'ont montré leur registre, leur organisation, etc., qui ont zéro journée dans le RIMPE. Donc je pense qu'il faut absolument interpeller les choses et veiller à ce que, déjà, pour que Magali Coldefy puisse travailler correctement, faire cette liaison entre le registre, le dossier et le codage, de manière à ce que vous, nous, les établissements, les territoires, les commissions, etc., aient les éléments un peu plus objectifs. Parce que je reste toujours dans l'interrogation de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'optique ? On a beaucoup réduit l'hospitalisation. Donc est-ce que de ce fait-là, on ne voit pas plus la contrainte ? Et, vous voyez, donc il faut établir les choses.
Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que quand même, l'état actuel de la situation, nous, quand on visite des établissements, c'est que quand on demande à la direction de l'établissement ou au chef de service, dans votre établissement, il y a combien de placements sous contrainte, par exemple, ou à l'isolement, personne ne peut nous le dire. Il n'y a qu'un service qui peut le dire, c'est le service de... De sécurité.
Ah, d'accord.
Voilà, cherchez. Il porte un autre nom, mais enfin, le service de sécurité, parce qu'il faut bien savoir s'il y avait un incendie, qui est où. Mais aucun service ne peut nous sortir ce type de statistiques. C'est quand même assez effrayant. Et quand on leur demande pareil sur l'année combien il y en a eu, personne ne peut nous le dire. Alors, ça va changer avec la loi, bien sûr. Mais le constat est assez étonnant.
Monsieur. Barbu avec des lunettes.
Oui, Olivier Simène, EPS Barthélémy Durand à Étampes. Je voulais juste revenir en fait sur une chose. Effectivement, la loi est parue le 26 janvier 2016. Il y a eu des groupes de travail en fait dans l'établissement qui ont été mis en place. Et le registre, on l'a mis en place dès le mois de juin. Donc dès le 1er juin, effectivement, on a un registre qui est fait avec un relevé d'informations de la part des différents services. Sur l'observatoire dont vous parlez, il me semble avoir fait cette même remarque quand il y avait l'espace éthique. La loi a prévu en fait que tout ce registre-là fasse l'objet en fait du rapport de la commission d'usagers. Ce rapport-là ensuite est transmis aux agences régionales de santé. Par cette voie-là, les agences régionales de santé, avec les grandes régions qui sont actuellement, vont avoir en fait un panorama avec le relevé des rapports des commissions d'usagers. Donc, ça fera déjà au moins 13 grands rapports. Certes, ça ne sera pas un observatoire national, mais on aura déjà effectivement quelque chose au niveau des régions avec tous les établissements qui vont faire remonter leurs éléments à l'ARS par le rapport de la commission d'usagers.
Sauf erreur de ma part, ce n'est pas une obligation de la loi
de
transmettre aux ARS
cas, les ARS demandent chaque année le rapport des commissions d'usagers qui sont validés et transmis aux ARS.
Donc les établissements obéissent à l'ARS même quand ça n'est pas une obligation de la loi. Oui. Donc ça, c'est bien. Oui. Monsieur Mariotti.
Puisqu'on est sur le rapport et le temps que le micro arrive au fond, là, on parle bien d'un rapport spécifique. Je crois qu'il faut insister là-dessus et pas d'un bout dans un autre rapport. Moi, la proposition que je vous soumets comme ça, elle en choquera peut-être certains, puis d'autres prendront peut-être l'idée au vol, que j'ai faite dans l'établissement au comité des usagers, puisque ça se met en place sous la nouvelle formule, c'est que le rapport soit contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, que non content qu'on le leur soumette pour un avis, ils aient un chapitre à eux pour apporter leur appréciation de ce qui se passe dans l'établissement à partir des contacts qu'ils peuvent avoir avec les patients, etc., et à partir des statistiques donc produites dans le registre ou à partir du registre par l'établissement. Mais je pense que la procédure, elle doit, s'il s'agit de donner plus de place aux usagers dans l'établissement et pas que factuellement, la procédure, elle doit être contradictoire déjà au sein des établissements et on doit pouvoir en débattre, voire être dans des objections réciproques avec les usagers, parce que c'est pas un sujet qui est facile. Donc, moi, je suis parti de cette proposition. Ils sont d'accord sur le principe. Je ne sais pas ce qu'on en fera exactement derrière. Mais je pense qu'on peut tout à fait raisonner sur un rapport contradictoire pour sortir de cette logique où c'est dans cette forme de gouvernance où les usagers y sont ou y sont pas, où l'établissement produit des choses et les soumet pour avis aux autres. Je pense qu'il y a place pour un travail conjoint parce qu'il faut remonter vers les racines des difficultés ou de la complexité. Et c'est qu'un avis personnel.
Tout le monde est d'accord, évidemment. Dans le fond, allez-y,
oui,
monsieur.
Jean-Pierre Stabler, directeur du centre hospitalier de Montfavet à Avignon. Je voudrais revenir sur la question de la prise en charge des personnes détenues.
Oui.
Puisqu'effectivement, quand on reprend la loi, ces personnes sont normalement admises en psychiatrie, soit en unité de soins spécialement aménagée, en UHSA, soit, dit la loi, en unité adaptée sur avis médical. Et on peut penser que ce terme vise à remplacer le terme d'UMD, puisque les UMD ont perdu leur statut législatif par la réforme de 2013. Ce qui veut dire que l'on admet en unité de psychiatrie générale classique, en fait, des détenus que par défaut, puisqu'il n'y a pas actuellement suffisamment de place en UHSA, et qu'à ce titre, en fait, il est important, comme d'ailleurs ça se fait dans le milieu somatique, hein, quand un patient est admis à l'hôpital général faute de place en UHSI ou pour des raisons d'urgence, il est admis en chambre sécurisée, avec la présence, effectivement, de représentants de l'ordre en garde statique, ce qui n'est pas le cas en psychiatrie. À ce titre-là, moi, il me semble important de rappeler quand même que les articles D395 et D397 du Code de procédure pénale nous font obligation de mettre en œuvre, autant que faire se peut, pendant les séjours hospitaliers, la poursuite des règlements pénitentiaires, et dit le Code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne les relations avec l'extérieur des détenus et aussi en ce qui concerne les mesures de sécurité. Dans ces conditions, moi, il me semble que la position du CGLPL est pertinente, hein, par rapport à l'admission en chambre d'isolement qui n'est pas forcément justifiée. Ce que nous faisons, nous, sur Avignon, c'est que nous avons voulu mettre en place des chambres sécurisées qui ressemblent, en fait, en termes de configuration à des chambres d'isolement, si ce n'est que le mobilier n'est pas un mobilier de chambre d'isolement, et bien évidemment aussi que le séjour de ces patients dans ces chambres ne les prive pas des activités thérapeutiques auxquelles ils ont droit, notamment, mais dans ce cas-là, ça se fait avec un accompagnement par du personnel, puisque la priorité, d'ailleurs les préfets et les procureurs nous le rappellent, est quand même d'éviter la communication autant que faire se peut avec les autres personnes qui peuvent aller et venir et donc peuvent permettre à ces détenus d'obtenir des objets dangereux et autres. Et je pense qu'en fait, on n'a pas suffisamment fait la différence, notamment dans les rapports du CGLPL, entre la question de la mise des détenus à l'isolement et puis que l'on n'en déduise pas en fait, un certain angélisme qui voudrait laisser penser qu'un détenu hospitalisé en psychiatrie peut cohabiter avec d'autres patients alors que leur séjour en psychiatrie générale n'est actuellement qu'un séjour par accident puisqu'on ne peut pas les admettre ailleurs. Madame le contrôleur général, je souhaiterais effectivement savoir ce que vous pensez donc, de ce que je décris. Est-ce qu'en faisant comme nous le faisons, c'est-à-dire effectivement en permettant à des détenus d'être hospitalisé dans un milieu sécurisé avec la possibilité de ne pas être privé d'activité thérapeutique et d'avoir bien évidemment aussi les promenades hein, qui sont nécessaires, l'aménagement soit effectivement d'une cour de promenade dédiée quand c'est possible, soit des promenades accompagnées, savoir si effectivement en faisant comme cela, nous sommes dans le respect des prescriptions que vous avez fondées.
Oui, ça me paraît tout à fait respectueux des préconisations, que nous avons élaborées. Puisque, moi, évidemment, je ne dis pas qu'il faut que les détenus soient hospitalisés exactement dans les mêmes conditions. Je dis simplement qu'il ne faut pas qu'ils soient mis à l'isolement de façon spécifique. Car ce qu'il faut savoir, c'est que quand un détenu est incarcéré, automatiquement et tout au long de sa détention, il est classé, entre guillemets, sur un niveau de dangerosité qui va de 1, où il n'est absolument pas dangereux, jusqu'à 4, où il est détenu particulièrement signalé. Donc, qu'on mette un détenu particulièrement signalé à l'isolement quand il arrive à l'hôpital, par défaut, vous avez raison, d'autres hospitalisations en UHSA, par exemple, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est le caractère systématique. Dès qu'il est détenu, il est à l'isolement. Donc, ce que vous décrivez me semble conforme aux droits fondamentaux des personnes, en l'occurrence des patients détenus.
Oui, je voulais intervenir sur le même sujet de façon un peu moins juridique, même ce qu'a dit le collègue est tout à fait exact, et un peu plus pragmatique. En fait, d'une part, c'est quand même difficile de traiter de la même façon un voleur de poule et un violeur triple récidiviste. C'est quand même, je pense, c'est un peu aussi l'idée qui est là derrière. Mais surtout, depuis 2002, en principe, époque Pascal Clément Bachelot, il y avait des procédures c'est la loi santé justice, de transfert d'informations entre la pénitentiaire et la santé. Et puis Jean-Pierre Stedler a complètement raison sur toutes les obligations qu'on a vis-à-vis du parquet, du proc, etc.
Sauf que le rapprocher votre micro.
Oui, il y a des procédures depuis 2002, époque Santé Justice, Pascal Clément Bachelot de mémoire, avec des transferts d'informations, notamment sur la dangerosité entre la pénitentiaire et la santé. Sauf que ces procédures, elles n'ont jamais été mises en place. L'administration pénitentiaire n'a pas fait grand-chose, d'ailleurs, dans ce domaine. Il y a des problèmes de liberté publique, il y avait des problèmes de système d'info derrière. En fait, ces procédures, il faut dire clairement les choses, ne sont pas en place. C'est très difficile d'avancer sur ces questions avec la pénitentiaire. Moi, j'ai beaucoup moins de difficultés là-dessus depuis que j'ai quitté Villejuif, parce que Villejuif, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. C'est extrêmement difficile sur un plan concret. Il y a des loups juridiques et informatiques là-derrière. Juste une petite observation sur la promenade aussi, parce que j'ai participé au cahier des charges de l'UHSA de Villejuif. La notion de promenade est une notion assez pénitentiaire. C'est-à-dire qu'un malade mental, même s'il est détenu, il n'a pas forcément besoin... L'histoire de la cour dédiée, c'est intéressant. L'histoire de la promenade, c'est un peu plus limite, parce que le terme promenade évoque quand même très les pratiques pénitentiaires. Donc il faut faire attention à ce terme-là. Mais la notion de cour dédiée ou de patio dédié, comme j'ai d'ailleurs vu à BD, la recueillement de BD à Péry-Vaucluse, est intéressante parce que ça permet à quelqu'un de sortir librement, effectivement, d'avoir un rapport à la nature sans rendre compte à personne.
Merci, monsieur.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La notion de promenade d'une heure par jour, ça, c'est ou deux heures par jour, c'est la prison. En revanche, qu'il y ait une cour où les patients puissent, justement, et les patients détenus, par exemple, en UHSA, puissent prendre l'air, c'est pas le cas dans toutes les UHSA, et ça devrait l'être.
Dernière intervention de Pascal Mariotti. Non, c'est pour autre chose. OK, ben on va pouvoir remercier Aline Hazan. Merci, madame, d'être venue participer aux journées de la DESME.
Effectivement, merci beaucoup à madame Hazan et aux échanges qu'on a pu avoir aussi, je dirais, pendant la pause, qui préfigure de travaux qu'on pourrait mener en commun.